Nous allons faire deux lectures dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Un verset qui nous rappelle, Éphésiens chapitre 5, verset 14, que Christ veut nous éclairer. Car il se peut que dans bien des domaines, dans bien des situations, nous n'ayons pas encore toute la lumière de Dieu. Est-ce que vous croyez que nous avons été éclairés sur tout? Bien sûr que non. Donc, ce texte parle aux Éphésiens qui pourtant étaient une bonne église. La réputation de cette église n'était plus à faire. Paul avait entendu parler de cette église qui marchait dans l'amour et dans la foi. Et cette église avait quand même besoin d'aller beaucoup plus loin dans la vie de l'esprit, dans la vie du revêtement de l'esprit. Donc Paul dit aux Éphésiens ceci au chapitre 5 et au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà ce que le Seigneur pourrait dire ce soir à l'Église. Réveille-toi, relève-toi, et s'il y a cette décision de réagir, il y aura cet éclairage spirituel sur certaines choses que nous allons partager maintenant. Mais d'abord, la deuxième lecture, c'est dans ce même livre, au chapitre 4, au verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Que dit le Seigneur à ces chrétiens d'Éphèse ? Voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et la suite, il donne tout un tas de comportements à avoir ou à ne plus avoir, afin justement que nous soyons revêtu de cette vie nouvelle. Ce soir, nous les chrétiens qui sommes ici, nous représentons l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord ? Vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes, quand vous avez pris le baptême, vous vous êtes attaché au Seigneur Jésus-Christ et vous faites partie de cette famille. Donc vous savez que vous avez d'immenses privilèges, d'immenses grâces, ce que l'on vient de chanter nous rappelle un tant soit peu tout ce que le Seigneur veut que nous vivions. Mais de la même manière que nous sommes conscients des privilèges extraordinaires de faire partie de la famille de Dieu, de ne plus être des étrangers, ni des gens du dehors, mais des concitoyens des cieux, etc. C'est extraordinaire ce que nous sommes. Mais voilà, l'Église a également des devoirs et des responsabilités. L'Église doit être le sel de la terre, doit apporter de la saveur. Voilà. Et ce sont des questions que nous devons continuer à nous poser. Qu'est-ce que j'apporte en tant qu'individu? L'Assemblée, qu'est-ce qu'elle apporte autour d'elle? Est-ce que nous sommes la vie, cette vie? Jésus l'a dit, que nous serions cette vie, la lumière, la bonne odeur de Christ. Quelle est l'odeur que nous dégageons, l'odeur spirituelle que nous dégageons? Vous êtes la bonne odeur de Christ. Le beau message de la croix, par qui peut-il être communiqué, sinon par l'Église de Jésus-Christ? Vous êtes d'accord? Comment l'Église, est-ce qu'elle doit avertir du jugement à venir? Est-ce que c'est une responsabilité de dire aux gens que le jugement va venir? Que la colère de Dieu va venir? Est-ce que ça fait partie des prérogatives de l'Église? Oui. Est-ce que l'Église doit apporter la grâce de Dieu, le pardon des péchés? Oui. Et nous pourrions allonger la liste et nous savons que c'est le rôle de l'Église. Alors, on vient d'en voir quelques aspects, ça nous met devant notre responsabilité. Ce matin, je lisais, cet après-midi, je lisais, quand on parle de Paul, on dit, et de Silas, on dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Vous aimeriez que l'Église, tout à nouveau, bouleverse le monde? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire, non, maintenant c'est la fin des temps, non, écoutez, l'Église elle va s'éteindre petit à petit? Non, c'est pas possible. L'Église doit bouleverser le monde. Ce n'est pas au monde à bouleverser l'Église. En tous les cas, c'est ce qui se passe dans bien des endroits. C'est plutôt le monde qui bouleverse l'Église, le monde qui rentre dans l'Église avec ses méthodes et ses idées. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ce principe-là, il y a une chose qui est sûre, si Dieu, par l'apôtre Paul, a bouleversé le monde, a évangélisé. Écoutez, il n'y avait aucun moyen. Paul, à lui tout seul, a évangélisé l'Asie. L'Asie, c'est pas un département. C'est même pas un pays. C'est un continent. Sans téléphone, sans moyens techniques, sans voiture, sans rien. Parce que cet homme était rempli du Saint-Esprit. Oui, nous pouvons croire que l'Église peut tout à nouveau manifester la puissance du Saint-Esprit. Quelle est la réponse à tous les problèmes? Notre frère Raymond Lola a à cœur l'évangélisation des jeunes. Il y avait notre sœur Fabienne. Elle est là, Fabienne Miegemon? Non? Elle est là, oui. Que Dieu vous bénisse. Elle a à cœur, avec tout son groupe d'Agapé Mosaïque, l'évangélisation des musulmans, etc. Mais même, rien que l'unité dans un culte. Est-ce que c'est important, l'unité dans un culte? L'unité spirituelle? Parce que c'est une chose d'être ensemble, mais l'unité spirituelle des chrétiens, c'est quand même autre chose. Dans la saine doctrine, c'est quelque chose d'important. L'évangélisation, comme je viens de le présenter, mais l'efficacité dans les moyens d'évangélisation. Faire de l'évangélisation, c'est une chose. Être efficace dans l'évangélisation, c'est autre chose. Les problèmes que nous rencontrons, les nôtres. Les problèmes des autres, quand nous sommes également confrontés aux problèmes des autres. Quand on est chrétien, on n'est pas insensible aux problèmes des autres. L'assurance du salut, la délivrance du péché, et nous pourrions multiplier la prière efficace. Est-ce que c'est important que l'Église prie efficacement? Pourquoi il n'y a plus de rayon de prière? Pourquoi les gens ne viennent plus au rayon de prière? Eh bien parce que beaucoup de gens disent, les prières, elles ne sont pas exaucées, à quoi ça sert? On entend souvent ces réflexions qui doivent énormément attrister le Saint-Esprit d'ailleurs. Parce que quand même, Dieu a institué à la prière, c'est bien pour nous exaucer. Les guérisons, est-ce que c'est important les guérisons? Les guérisons psychiques, mais les guérisons physiques, est-ce que Dieu veut toujours guérir? Est-ce que Dieu veut guérir? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu veut guérir? Et tout ce que je viens de citer n'est possible que par l'intervention du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Il faut l'accepter. On essaie parfois parce que dans certains endroits, l'action du Saint-Esprit a dérangé des gens, on a voulu tout diriger, tout contrôler, et tout ça, ça ne va pas aller. Parce que justement, quand Joël prophétise, il dit « dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit ». Et vouloir se passer du Saint-Esprit va empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit, alors je ne parle pas de la dénomination, je parle de l'état d'esprit. L'Église de la fin des temps doit être pentecôtiste. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Les jeunes filles, les jeunes hommes prophétiseront. Les vieillards auront des sons. Il faut que nous comprenions bien que l'œuvre de Dieu n'est possible que si nous acceptons que le Saint-Esprit gouverne l'Église. Et ça demande que chacun d'entre nous soyons sérieux. Tout doit être compris d'une manière sérieuse. Paul dit aux Éphésiens, pourtant, c'est une église sérieuse, Éphèse. On voit que c'est une église qui a beaucoup reçu. Elle s'applique, lisez l'introduction, et c'est une église dont on aurait aimé être le pasteur, c'est évident. Et pourtant, Paul va régler les problèmes de plus en plus dans cette église. Il dit, voilà, mais attention, réveillez-vous, relevez-vous, et le Saint-Esprit vous éclairera. Christ, ça veut dire, il n'est pas dit Jésus vous éclairera. Christ, c'est toujours cette onction. Christ nous parle de l'onction de Jésus. Et nous avons besoin de cette onction. Alors nous allons voir quelques textes pour bien comprendre. Parce que je me rends compte dans mes entretiens personnels, surtout par rapport aux nouveaux, qu'ils ne saisissent pas cette notion du Saint-Esprit. Mais regardons bien comment l'œuvre de Dieu en vérité ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. Même le nouvel homme, je terminerai tout à l'heure avec l'importance de se dévêtir du vieil homme et de se revêtir du nouvel homme. Mais chaque fois que la Bible parle du nouvel homme, elle nous le présente comme étant le résultat de la communion avec le Saint-Esprit. Lisons quelques textes et notez-les si ça peut vous aider à mieux comprendre. Par exemple, 2 Corinthiens chapitre 3, on l'a vu dimanche, mais certains n'étaient pas là. Mais c'est bien, 2 Corinthiens chapitre 3. Voilà, on va prendre 6 ou 7 lectures. C'est des choses sérieuses. Ce n'est pas une étude biblique, c'est une exhortation pour que nous comprenions bien que l'œuvre de Dieu ne peut se faire qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Qu'en est-il? Comment contempler la gloire du Seigneur? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui veulent, dans leur culte personnel, contempler la gloire du Seigneur? Regardez ce qui est écrit. 1 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Ça vous intéresse, ça? Non? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. J'espère qu'il y a des chrétiens ici qui sont intéressés à être transformés de gloire en gloire. Comment? Par l'Esprit du Seigneur. Regardez bien, la gloire du Seigneur dans l'Église. Contemplez la gloire de Dieu. Je l'ai dit dimanche, mais beaucoup n'étaient pas là. Je vous le répète, nous ne sommes pas transformés par le service. Nous sommes transformés dans notre culte privé en contemplant la gloire du Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont frustrés. Je ne comprends pas, je sers Dieu et je suis découragé. Je ne comprends rien, Dieu ne m'a pas renouvelé. Et ceci, ce... Mais il n'est pas dit qu'on est transformé en servant. Ce texte est catégorique. On est transformé en contemplant la gloire, le visage du Seigneur dans le culte personnel par l'Esprit du Seigneur. Au-dessus, verset 17, où se trouve la liberté? La liberté, c'est dans l'expression, dans une espèce de pseudo, vous savez, expression corporelle dans l'Église, c'est ça la liberté? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous êtes intéressé par la liberté? Cette vraie liberté. La liberté, pour moi, je la définis de cette façon. Parce qu'une fois, j'avais discuté avec un gars qui se droguait et qui me disait, moi, je suis libre. Et ça m'avait choqué parce que, mais vous savez, j'ai dit, t'es libre? Et j'avais été maladroit pour lui répondre. Et puis, j'ai eu cette idée. La liberté, tu es libre quand tu peux dire oui au bien et quand tu peux dire non au mal. Voilà ce que c'est la liberté. Voulons-nous être libres? C'est pas une grande liberté, ça, de pouvoir dire oui au bien et de pouvoir dire non au mal? Ce n'est possible que, on l'a lu, par l'Esprit du Seigneur. D'autres textes, on peut en lire, t'es dans Éphésiens, on revient. Comment avons-nous la communion avec le Père et avec le Fils? Parce que nous ne nous rendons pas compte de cette affaire. Lorsque nous sommes chrétiens, dans notre esprit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est écrit. Il y a plusieurs textes, j'espère que vous me croyez. C'est écrit. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Comment avons-nous accès auprès du Père, auprès du Fils? Car par lui, donc par Jésus-Christ, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 22, en lui, donc en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, comment? En esprit. Est-ce que nous nous rendons compte? Il faut que nous comprenions bien que nous ne pouvons pas nous autoriser à mettre l'esprit dehors. C'est vrai qu'il faudra bien canaliser les choses si le Saint-Esprit agit de plus en plus dans l'Église. Mais il y a des églises où on ne veut plus les dons spirituels. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu des débordements. C'est triste qu'il y ait des débordements. Mais est-ce que c'est la solution de dire, voilà, on ne veut plus de dons spirituels? Eh non, c'est pas sérieux. Ce n'est pas l'homme à contrôler cette affaire-là. C'est les anciens dans une église qui doivent se réunir, les pasteurs, et dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Vous savez, quand quelque chose trouble, on est tous sensibles à ces choses. Mais il est hors de question de dire, voilà, pour ne pas avoir de problème, on va empêcher les dons spirituels. C'est une affaire grave parce que ça va attrister le Seigneur. Déjà que si on n'aime pas les gens, qu'est-ce que Dieu a à faire dans une église où on n'aime pas les pécheurs? Alors dans une église également où on mépriserait les dons spirituels, les prophéties, ça irait pas bien. Romains chapitre 8, verset 16. Regardez, l'assurance du salut. On a chanté de beaux cantiques, hein, vous êtes d'accord? Romains 8, verset 16, regardez. Ce sont des versets. Il y a des chrétiens, des fois, on leur parle du salut, ils ont pris le baptême, mais ils sont là, vous avez l'assurance du salut, ben ouais, je sais pas, je le sens pas. Vous voyez, cette légèreté, c'est sentimental. Romains 8, verset 16. Qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Qui? Le Saint-Esprit. Verset 16, l'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 14 et le verset 15, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, comment être conduits? Eh bien par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Père, vous avez vu dans ces deux versets l'assurance du salut. Vous avez vu? Le témoignage intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Au début, on était maladroit pour dire, on sait qu'on est sauvé, je sais pas, on ne sait pas trop l'expliquer. Mais on le sait. On le sait qu'on est passé des ténèbres à la lumière. On a été maladroit, on n'a pas été intelligent dans notre façon de témoigner, vous rappelez. Mais on le sait. Après tout ça, ça se corrige. Mais l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment sommes-nous délivrés de la crainte et de la servitude? Par l'Esprit d'adoption qui est en nous. Alléluia. Chrétien n'a pas à avoir de la crainte. Crainte de Dieu, oui. Le respect de Dieu, oui, mais pas la crainte. Vous avez peur du lendemain? Vous n'avez pas à avoir peur. L'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour parfait, ce n'est pas le nôtre. Hein. C'est l'amour de Dieu qui remplit nos vies. Comment ces choses sont possibles? Vous avez vu? Par l'Esprit de Dieu. Comment pouvons-nous produire l'amour, la paix, la joie? Ça vous fait penser à un verset de l'Écriture? Les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. Ce sont des fruits. C'est le résultat de quelqu'un qui est en communion avec le Seigneur. Il produit le fruit de l'Esprit. Et c'est quand même inquiétant. C'est pour ça qu'on peut lire, j'ai commencé avec ce verset, mais réveille-toi, relève-toi. Nous avons parfois affaire à des chrétiens qui ne portent pas du tout de fruits, et même de mauvais fruits. Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il y a une remise en question à avoir? Je vous ai raconté dernièrement qu'avec mon épouse, on avait invité deux chrétiens. On avait invité deux chrétiens, un couple. Parce qu'on a des amis inconvertis qu'on voit de temps en temps, ce sont des amis, on a appris, vous savez comment ça arrive de temps en temps, avec des voisins, etc. Et je m'étais dit, tiens, on va leur présenter des chrétiens. C'est une bonne idée, une très bonne idée. Alors on a invité un couple, à peu près le même âge, vous voyez. On s'est dit, on va les inviter, on va passer la soirée ensemble, etc. On a rendu grâce, et ce couple de chrétiens, ils sont arrivés, ils faisaient la tête. Ils s'étaient disputés, ils ont fait la tête toute la soirée. Mais la tête, la tête. Ça m'a fait pitié. Et c'est l'inconverti qui les a très bien accueillis chez nous. Et le lendemain, il m'a téléphoné, l'inconverti me dit, mais ces amis que vous avez invités là, ce sont des chrétiens? Et oui. Ah bon, ils n'ont pas l'air en forme en ce moment, vos chrétiens. Alors bon, il a compris. Mais franchement, je ne sais pas moi, ça peut nous arriver d'être pas en forme. Ça nous est tous arrivé. Mais je crois quand même que quand on a le Saint-Esprit, je pense qu'on prend le dessus. Des fois, ça nous est pas arrivé de passer une mauvaise journée, on va chez des gens, je crois qu'on cherche à rendre un bon témoignage. C'est pas l'hypocrisie. Je suis loin de moi, la pensée. Mais vous ne croyez pas, mes frères et sœurs, il y a un fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, si je ne porte pas de fruit, si mon frère, ma sœur, tu ne portes pas de fruit, relève-toi, réveille-toi, on va lire la suite. Je crois le Seigneur nous éclairera, il nous montrera ce qui ne va pas. Le Saint-Esprit, il est là, il n'est pas pour nous condamner. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour l'Esprit de Dieu, il est là pour nous éclairer et pour nous relever. Et nous pourrions prendre tous les textes. Regardez dans Éphésiens. Comment être fortifié dans l'esprit, c'est-à-dire avec un petit « e » dans notre esprit, si ce n'est par le Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 3. C'est important pour vous d'être fortifié? Vous n'allez pas être fortifié avec la méthode Coué, avec de l'autosuggestion. Et faites, non, je dis ça très sérieusement. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui sortent dans nos églises. Ici, bien sûr, ils n'y sont pas. Mais dans notre librairie chrétienne, où on cherche, on vous exhorte à puiser le meilleur en vous. Ça ne va pas, ça. Le meilleur à nous, il n'y a pas grand-chose, d'ailleurs. Regardez, Éphésiens 3, verset 14. On va lire deux textes. Comment connaître l'amour de Christ, les dimensions, comment être fortifié? Eh bien, ça va être par le Saint-Esprit. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, vous voyez, c'est un don, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, donc un E majuscule, le Saint-Esprit, dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est pas une connaissance intellectuelle, puisque ça surpasse la connaissance. C'est une connaissance spirituelle. Comment connaître les dimensions de l'amour de Dieu? Comment être fortifié dans son esprit par le Saint-Esprit? Vous comprenez pourquoi il faut pas l'éteindre? N'éteignez pas l'esprit. Dans une église, on empêcherait les dons spirituels, on va éteindre l'esprit. Alors c'est vrai que bon, je vais pas, c'est pas le sujet de la soirée. Il faut veiller absolument à ce que ce soit spirituel. Nous avons souvent été amenés avec les anciens à demander à certaines personnes d'arrêter d'apporter les dons spirituels parce que ça correspondait à rien du tout. La preuve, c'est que ces personnes ont très mal réagi. Si elles avaient été spirituelles, je crois qu'elles auraient dit écoutez, pardon, aidez-nous, etc. Mais combien c'est important de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas le mépriser et de ne pas l'éteindre. Réveille-toi. Si nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit, l'évangélisation efficace, je reviens à mon introduction, si nous voulons voir l'unité dans les cultes, cette bénédiction sur l'assemblée, sur les pécheurs, sur les chrétiens, si nous voulons voir ces choses, il faut que nous acceptions l'idée que chacun d'entre nous, nous avons besoin de nous relever, de nous réveiller davantage. Il y a quelqu'un qui peut dire, ah, mais moi je suis à fond avec Dieu, je suis suffisamment réveillé, je suis suffisamment relevé. Ou est-ce que vous et moi, nous pouvons dire, c'est quand même un petit peu pour moi aussi, j'ai besoin de me relever davantage, j'ai besoin d'être éclairé, je veux faire ton œuvre Seigneur, et pour cela j'ai besoin de corriger certaines choses. C'est quand même important. Alors, juste un aspect, l'œuvre de Dieu c'est sérieux, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas quelque chose d'humain, c'est pas quelque chose de philosophique, c'est pas quelque chose de politique, on n'est pas là pour faire de... Vous avez vu en ce moment, sans vouloir faire une allusion, vous avez entendu souvent les propos électoralistes de certains candidats qui font certaines choses pour avoir de l'électorat, vous avez vu? Je donne un exemple, c'est pas du tout pour critiquer qui que ce soit, faut-il faire voter les étrangers? Vous avez vu la tournure que ça prend? Ça s'appelle de la démagogie. On veut faire plaisir aux gens pour avoir des voix. Mais la démagogie, je vous assure que ça ne plaît pas à Dieu dans l'Église. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là pour obéir au Seigneur. Vous comprenez, je veux dire, on n'a pas rabaissé le message, tiens, on ne parle plus de l'enfer, comme ça, si on ne parle pas de l'enfer, les gens, ils vont penser que le Seigneur, il est gentil. Non, mais c'est ce qui se passe. Il faut que les gens sachent que s'ils ne se repentent pas et s'ils ne se convertissent pas, ils iront en enfer. Il faut qu'ils l'entendent. Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix. Il a suffisamment payé. Moi, je trouve qu'il a prouvé qu'il nous aimait. Moi, je trouve qu'il a payé très cher le prix pour nous sauver. Ah, donc, nous devons comprendre ces choses. C'est ça, avertir les pécheurs du jugement, leur présenter le pardon, leur présenter la grâce de Dieu, ce sont des choses, entre guillemets, on n'utilise pas souvent le mot parce qu'il a été tordu ce mot, mais ce sont des choses sacrées. L'éternité, présenter l'évangile, c'est quelque chose de solennel. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on regarde comment Dieu a appelé certains hommes dans la Bible, vous avouerez que ça fait réfléchir justement à cette façon de présenter l'évangile. Comment Dieu a-t-il appelé Moïse? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'appel de Moïse, on le lit? Regardez un petit peu. Et je crois que ces choses ont été écrites pour que nous soyons toujours bien conscients qu'on ne présente pas l'évangile à la légère, on n'est pas là pour faire rire les gens, il faut... Vous voyez, c'est ça quand le monde rentre dans l'église. On n'est pas là pour faire rire les gens, on est là pour leur faire prendre conscience de leur éternité avec ou sans Dieu. Dans l'Exode, on va lire, on va peut-être pas tous les lire, mais regardez, l'Exode, comment Dieu nous révèle l'appel de Moïse. C'était pour que l'œuvre de Dieu se fasse, vous êtes d'accord avec moi? L'appel de Moïse, c'est un homme qui a souffert pendant des années, 40 ans, il arrive à 80 ans, il a été énormément frustré, mais voilà, le temps est venu, l'œuvre de Dieu va se faire. Et Dieu lui montre comment ça commence. Exode chapitre 3, verset 1. Mes frères et sœurs, pourquoi je vous dis ça? Écoutez-moi bien. Je vous dis ça parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Oui? Bon, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut que nous comprenions une chose. Que l'œuvre de Dieu ne se fait pas en dehors de la sainteté, des choses solennelles. On ne peut pas. Et c'est pour ça que chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il y a cette solennité, cette profondeur. Lisons-le. Exode 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Au bout de 80 ans. Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Et à partir de là, et uniquement de là, l'œuvre de Dieu va pouvoir commencer à se faire. Est-ce que vous me suivez? L'œuvre de Dieu ne commence pas et ne peut pas commencer dans la légèreté. Le réveil que nous voulons dans la ville de Toulouse, l'action du Saint-Esprit que nous voulons voir et que Dieu veut voir et que Dieu veut certainement plus voir que nous. Je l'ai souvent dit, Dieu est plus intéressé que nous par le salut des âmes. Vous le croyez que Dieu est plus intéressé que nous? Mais voilà, l'œuvre de Dieu passe par les hommes. C'est quelque chose que je ne prends pas le temps d'expliquer, mais chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il lui faut un homme. Pour sortir les Hébreux d'Égypte, il fallait Moïse. Pour qu'une arche soit faite, il lui fallait un Noé. Le problème de l'arche n'était pas un problème. Trouver un Noé, c'était une affaire beaucoup plus sérieuse. Sauver des âmes, que l'Esprit de Dieu agisse, ce n'est pas une grosse affaire. Le problème pour Dieu, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. C'est trouver l'Église qui pourra avoir ce respect des choses spirituelles. Le problème de Dieu, il est là. C'est l'homme ou l'Église que Dieu va devoir trouver. Et l'appel de Moïse nous met tous devant ce sérieux. Comment voulons-nous appréhender l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu va être moins exigeant que pour Moïse? Regardez comment Dieu a appelé Josué. Quand Josué est sorti du désert, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, qu'ils ont célébré la Pâque et qu'ils ont fait la circoncision, parce que dans le désert, elle n'avait pas été faite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut le lire. Regardez Josué, chapitre 5. C'est important, parce qu'il y a des gens qui se disent, « Oui, Seigneur, envoie le réveil, envoie le réveil !» Mais attendez, il y a toute une préparation. Christ va nous éclairer si nous nous réveillons, si nous nous relevons, le Seigneur va nous éclairer. C'est ce que peut-être Dieu est en train de faire ce soir, en train de nous éclairer pour savoir comment il va falloir s'y prendre. Josué chapitre 5, donc verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, avant le combat, avant la conquête de Canaan. Vous voyez, c'est juste avant l'œuvre de Dieu chaque fois. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Son épée nue dans la main, ça veut dire qu'il va y avoir un combat. Sinon, on aurait été dans le fourreau, vous comprenez? Ça, c'est une image spirituelle. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Josué n'a pas compris. Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le chef de l'armée de l'Éternel, ça veut dire que c'est Dieu qui va combattre. Il n'a pas dit, « Je suis Jéhovah Jiré, Jéhovah Shalom. » Voilà, non. Le chef de l'armée de l'Éternel. C'est très bien d'ailleurs. J'arrive maintenant et Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Lui croyait que c'était un homme, il n'avait pas compris que c'était Dieu. Une théophanie qu'on appelle. Et le chef de l'armée de l'Éternel lui dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué ainsi. Je l'ai déjà dit dernièrement, l'Église, que vous le vouliez ou non, par la présence de chaque chrétien qui sont des pierres vivantes, par la présence de Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit, c'est une terre sainte. Vous pouvez le dire comme vous voulez. La maison du Seigneur doit être sainte, oui ou non? Puisque celui qui vous appelait saint, soyez saint dans toute votre conduite. Et il faut comprendre une chose, si nous voulons voir l'œuvre de Dieu se faire comme Moïse a pu être cet instrument pour que l'œuvre de Dieu se fasse, comme Josué a pu être l'instrument de Dieu pour que l'œuvre de Dieu se fasse, pour Esaïe, qui quand Dieu s'est révélé l'année de la mort du roi Ozias, je peux vous dire que c'est pareil. Il a réalisé la présence de Dieu dans le temple. Quand Pierre a été appelé, Il est tombé à genoux. Oh, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il réalise la sainteté de Dieu. Il réalise la solennité, que c'est sérieux le salut des âmes. On ne va pas sauver les âmes avec du cinéma. On sauvera les âmes avec une église qui prend conscience de la crainte de Dieu. Vous avez vu, ils sont pleins de crainte. Est-ce qu'on doit avoir moins de crainte dans le cadre de la Nouvelle Alliance? Quelle erreur de penser ça. Quand Saul de Tarse est appelé le persécuteur de l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Il tombe à genoux devant cette lumière. Chaque fois que Dieu appelle un homme pour que l'œuvre de Dieu se fasse, il y a vraiment un enseignement qui nous fait prendre conscience que les choses de Dieu sont solennelles. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? L'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas dans la légèreté. Elle ne se fera pas avec du spectacle. L'œuvre de Dieu, elle se fera avec des hommes et des femmes sanctifiés. Les choses de Dieu, elles sont spirituelles. Pour ça qu'il est dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels. Et voyez, quand je vous disais que le monde bouleverse l'Église, quand on introduit la musique du monde dans l'Église, c'est bien le monde qui bouleverse l'Église. On n'a pas cherché nos méthodes dans le monde. Nos méthodes, on doit les chercher dans la Bible. Et la méthode, c'est des hommes remplis du Saint-Esprit. Le problème de l'homme, c'est qu'il a reçu de l'intelligence. L'homme, lui, c'est la méthode. Mais comme l'homme est compliqué, il va chercher, lui, des méthodes. Mais la méthode de Dieu, ce sont des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Rien ne doit venir de la chair. Rien ne doit venir de nos propres forces. Tout doit venir de la puissance du Saint-Esprit. Alors, je termine avec cette pensée. Je ne pensais pas prendre autant de temps pour ce sujet, pour cette introduction. Mais je termine juste. D'ailleurs, je vais vous donner les éléments pour y réfléchir. Dans Éphésiens, nous avons lu au chapitre 4 que nous ne devons pas marcher comme les païens, que nous devons vraiment nous dépouiller de certaines choses et que nous devons revêtir certaines choses. Alors, regardez avec moi, par exemple, dans Éphésiens, chapitre 4, on a lu jusqu'au verset 24, mais après il va donner ces éléments qui nous permettent de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire, se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Ça revient plusieurs fois dans les Romains, dans les Colossiens, dans les Éphésiens. Dieu dit, voilà, vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez-vous de la lumière. Quelques exemples. Et je crois qu'hélas, il faut revenir à ces choses, parce que beaucoup de chrétiens se sont fait piéger. Par exemple, donc, vous rappelez, hein, la fin du verset 21, vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, et verset 24, à revêtir l'homme nouveau. Donc, il y a la question du dépouillement et la question du revêtement. Verset 25. Alors, il donne quelques exemples. C'est étonnant. Mais c'est utile. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Voilà, il faut savoir se dépouiller du mensonge. Voilà, ce sont les œuvres des ténèbres, le mensonge. Il y a des gens qui disent, oh, c'est pas grave, un de plus, un de moins. Mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons voir la puissance de Dieu? Il faut renoncer au mensonge. Et si vous avez commis un mensonge, il faut le régler. Demandez pardon à Dieu, demandez pardon à la personne à qui vous avez menti. Il faut le faire. Renoncer au mensonge. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Seigneur, délivre-moi du mensonge. Il n'est pas dit de prier pour qu'on soit délivré du mensonge. Il nous est demandé d'y renoncer. C'est une décision. Le mensonge, alors, là, à plus tôt, alors regardez, mais parlez selon la vérité. Verset 26, par rapport à la colère, à l'irritation. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bon, là, il met la colère, l'irritation en opposition avec la maîtrise de soi. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous attraper avec votre conjoint? Moi, avec ma femme, quand on s'est marié, on a pris ce texte à la lettre. On ne se couchera pas sur la colère. Parce que ça peut arriver dans le couple. Je ne vous invente rien. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je t'ai dit ça. Je te prie de me pardonner. Parce qu'on donne accès au diable. Et après, on va prier, Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit. Oui, bien sûr que nous avons besoin de ce baptême. Mais je crois que si nous attristons le Saint-Esprit d'un côté, si nous méprisons le Saint-Esprit de l'autre, si nous éteignons le Saint-Esprit et qu'en même temps nous lui demandons de nous remplir, ça va être compliqué cette affaire. il va y avoir énormément de complications et de frustrations. Je crois que la meilleure façon, elle est très claire, voilà, dépouillez-vous, voilà, le mensonge, il faut s'en dépouiller. La colère, il faut apprendre à la gérer. Parce qu'il est dit, si vous vous mettez en colère, on a le mot en grec, c'est « si vous vous irritez ». Parce qu'après, il est dit, c'est bien de le dire quand même, « si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur la colère ». Le premier mot, c'est « irrité », et le dernier mot de colère, là, c'est une irritation vive, c'est-à-dire que ça a déjà dégénéré. C'est une chose de s'irriter, c'est une chose d'être dans une colère excessive. Il y a des choses qui peuvent nous irriter, c'est pas vrai ? C'est pour ça qu'on voit une certaine condescendance là, de la part du Seigneur, si vous vous mettez en colère. Oui, on pourrait dire, tiens, il accepterait presque le fait qu'on se mette en colère. Parce que je crois qu'il y a des irritations, il y a des choses qui nous irritent. Et mais c'est pour ça qu'il faut le gérer. Comment ? En se revêtant de cette maîtrise de soi. Seigneur, je fais attention, je ne vais pas me coucher sur la colère, je vais régler ce problème avant de m'endormir, parce qu'il est dit qu'on peut donner accès au diable. Ce sont des choses sérieuses. Au verset 28, on n'en parle pas de ça. Mais je peux vous dire qu'il faudra en parler plus souvent. Je crois que j'en ai parlé deux ou trois fois en 14 ans. Verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Alors pourquoi en plus ? Mais plutôt qu'il travaille, et ce n'est pas pour qu'il travaille pour ne plus voler. Regardez, qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est même pas une question de travailler pour ne plus voler, c'est une question de travailler pour pouvoir aider les autres. Ça fait partie de la nouvelle nature. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, écoutez, j'espère que je n'invente rien ce soir, il a besoin d'aider les autres. Il a besoin d'une façon ou d'une autre de témoigner. Vous voyez, il y a des paresseux, il y a des chrétiens paresseux. Chrétien, il s'arrange toujours pour ne pas bosser. En plus, il y a plein d'aides. Ah, mais moi, je suis aidé. Moi, j'ai tout ceci. Moi, j'ai tout cela. Alors, moi, je n'ai pas besoin de bosser. Moi, je crois qu'un chrétien, il doit travailler. Oui ou non ? Eh oui. C'est sérieux, cette affaire. Écoutez, c'est pas moi qui le dis. C'est le Saint-Esprit qui dit ça. Je crois qu'un chrétien, il doit travailler. Vous pouvez dire amen. Je crois qu'un chrétien, voilà, c'est une affaire sérieuse. Et plus quand il est dit, parce que c'est vrai qu'il faut aider les gens qui ne mangent pas, etc. Bien sûr qu'il faut nourrir les gens, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a quand même des textes où on voit une sévérité de la part du Seigneur, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, qu'on n'a rien à faire avec les gens qui ne veulent pas travailler. C'est parce que la paresse, c'est un péché la paresse. Dieu ne nous a pas été créé pour vivre aux dépens des autres. Ah, bien sûr, si vous êtes handicapé, si vous avez des difficultés, ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas les choses. Mais quand même, la vie de l'esprit nous fait que nous avons de la joie à travailler, et même les gens qui sont à la retraite, ils ont envie de servir, de faire quelque chose d'une façon ou d'une autre. C'est quand même écrit. Et ne dites pas que ce n'est pas vrai. Verset 29, là on est dans les paroles maintenant. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez d'un côté les paroles mauvaises contre les bonnes paroles, bien entendu. Verset 30, il nous est parlé du Saint-Esprit, qu'on peut l'attrister. Alors verset 31 nous parle de ce qui attriste le Saint-Esprit. Le verset 32 nous parle de ce qui le réjouit. L'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, toute espèce de méchanceté, tout ça, ça doit disparaître. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le cadre de la vie de l'Esprit. Nous sommes dans le cadre où nous voulons voir la gloire de Dieu. Il y a des choses, il faut les faire disparaître. Il faut les faire disparaître de son cœur. Je refuse. Oui, c'est vrai. Ce frère, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Ben, je ne vais pas le chanter pour autant. Après tout, je ne veux pas le médire. Il y a des choses, des fois, il faut les dire. Il faut les partager. C'est pas comment on appelle ça, du cafarder. Il y a des choses dans l'Église, une fois, deux fois, dix fois, on est venu me dire, voilà, monsieur Gauche, je vous dis ça, est-ce que c'est bien? Bien sûr. Si un frère est dans le péché, est-ce que c'est pas bien de quand même de le régler, ce problème? Quand même. Ce sont des choses sérieuses. Il faut que l'Église soit purifiée, il faut de l'ordre dans l'Église. Ce n'est pas le sujet de la discipline dans l'Église, mais il en faut énormément. Donc il y a des choses qui vont être en contradiction. Si je me permets d'avoir de l'amertume, il y a des gens qui sont pleins d'amertume. Il y a des chrétiens, ils sont pleins d'amertume. Oui ou non ? Oh, ici, vous saviez ce qu'on m'a fait ? Mais tous, on nous a fait des trucs. C'est pas vrai ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? On a tous été peinés, tous blessés, tous contrariés. Vous savez, c'est dans le cadre de la vie de l'esprit que ces choses disparaissent. Si dans mon cœur, il y a un peu d'amertume, Seigneur, eh bien, je la dépose à tes pieds. On va pas faire du cinéma. Oui, Seigneur, j'ai de l'amertume. Oui, Seigneur, j'ai de la méchanceté dans mon cœur. J'ai tendance à surmonter le mal par le mal. Eh bien, ça va être terminé, ça va disparaître. C'est dans le cadre du dépouillement et du revêtement. Il faut savoir déchirer ce qui n'est pas bon. Comme Élisée, qui, quand le manteau d'Élie est tombé sur lui, il a déchiré ses vêtements pour expliquer qu'il n'allait pas faire l'œuvre de Dieu avec ses propres forces, et il a pris le manteau d'Élie. Et je crois que nous aussi, comme c'est écrit, on va terminer avec ça, il faut nous revêtir de Christ. C'est ça qu'il nous faut, nous revêtir de Christ. Regarde avec moi dans Romains, on termine avec ces textes parce que c'est bien de les mettre ensemble avec la prédication de ce soir. Regardez. Donc après, on va revenir à Éphésiens, pardon. Par rapport au chapitre 7, parce que vous pouvez lire la suite, toute l'exhortation parle justement de savoir se dépouiller. Parce que les propos insensés, les paroles équivoques, la grossièreté, il faut le dire. Il faut en parler. Quelqu'un a dit à mon épouse dernièrement, oh ben c'est ce mot vulgaire, il est dans le dictionnaire. Non, si Dieu l'a créé, on peut l'utiliser. Moi, je ne crois pas que Dieu a créé la vulgarité. Je crois que c'est grave qu'un chrétien puisse s'autoriser à dire une chose pareille. C'est pour ça que c'est bien qu'on lise. Voilà, donc c'est la suite. Hein. Ce qu'il faut se dépouiller, ce qu'il faut se revêtir. Éphésiens 5, verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous. Vous voyez, les choses, on ne devrait même pas en parler. Vous voyez, la sexualité. Il y a des chrétiens qui s'autorisent parfois à parler de la sexualité. Je crois qu'il y a des choses, c'est peut-être pas utile d'en parler. À moins si c'est vraiment nécessaire par rapport à un problème qu'on pourrait rencontrer. Il y a des choses, c'est écrit, vous ne pouvez même pas en parler. Qu'on entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc vous lirez la suite et vous verrez ce qu'il faut, qui fait qu'on doit se dépouiller et ce dont on doit se revêtir. Romains, je l'avais mis sur mes notes, je voulais le faire. Romains 14. C'est le même enseignement, là c'est Romains 13, c'est le même enseignement, c'est dit d'une manière différente, Dieu a parlé aux Éphésiens, là il parle aux chrétiens d'Italie, à Rome, donc il aborde d'une manière différente. Romains chapitre 13, verset 12. Je pense que si ça a été écrit il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'ils font penser aujourd'hui? Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, déjà du temps de l'apôtre Paul, la nuit est avancée, qu'est-ce qu'ils font penser? Le jour approche, ça c'est bien. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire faire les convoitises. Et lisez le chapitre 14. Écoutez, demain matin, lisez s'il vous plaît le chapitre 14. Et vous allez voir les conseils que le Seigneur donne aux chrétiens de Rome pour leur expliquer ce qui est important, ce dont il faut se dépouiller, ce dont il faut se revêtir. Voyez, il parle, par exemple, il parle au verset 2. Au verset 1er, il dit « Ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Moi, j'ai entendu un jour deux chrétiens qui parlaient, l'un était pour manger de la viande, et l'autre disait « Mais non, chrétien, il faut qu'il soit végétarien. » Comment? Mais si vous êtes végétarien, tant mieux, c'est bien. Il n'y a pas de mal à être végétarien. C'est écrit. Vous voyez? C'est ça l'intelligence. Alors, vous voyez, il parle de ça, parce que ça peut créer des polémiques, ça. Écoutez, si vous aimez la viande, profitez-en. Si vous aimez les choux de Bruxelles, mangez des choux de Bruxelles. Mais, je vous fais rire. Mais lisez le chapitre 14. Et vous allez voir comment, parfois, les chrétiens sont capables de révéler. C'est un état d'esprit qui n'est pas bon. Vous lirez ce chapitre et regardez, à la fin de ce chapitre. Alors, on n'a pas le temps parce que là, ça prendrait toute notre réunion. Mais regardez au verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, comment? Par le Saint-Esprit. On y revient, vous voyez, on ne peut pas s'en exclure. Et regardez au verset 18, parce que ça c'est quand même un verset extraordinaire. Si vous respectez l'enseignement du chapitre 14, regardez ce que Dieu dit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Et si vous lisez Romains 14 et verset 15, vous allez voir tout cet enseignement. Oui, je dois me dépouiller de certaines choses. Seigneur, je veux le faire. Vous voulez le réveil? Nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Est-ce que vraiment, mes frères, c'est important? Est-ce que vous croyez que Dieu peut se manifester? Moi, je le crois vraiment. Alors, dépouillons-nous. Voilà. Ne discutez pas les opinions. Ne discutez pas les opinions. C'est écrit. Il y a des choses sur la doctrine, ça, on peut en discuter. Est-ce qu'on respecte dans nos églises la doctrine? Ça, on doit en discuter dans les églises. Alors ça, par contre, on pourrait en faire une affaire un peu plus sérieuse, de parler de la doctrine, de la saine doctrine. Car si nous honorons la saine doctrine, Christ nous honorera. Mais les opinions, les choux de Bruxelles ou la côte de bœuf, franchement. Merci Seigneur pour la nourriture. Merci Seigneur quand on jeûne, mais c'est bien de jeûner, c'est bien de manger. Est-ce que c'est bien de jeûner? Est-ce que c'est bien de manger? Mais bien sûr, tout est grâce. Tout est grâce. Alors mes frères et sœurs, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Et nous voulons être agréables à Dieu. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors ça c'est un travail individuel et c'est un travail collectif. Seigneur, je vais lire ta parole. Relisez Éphésiens 4 et 5, Romains 13, 14, 15. Et vous dites, ah mais oui c'est vrai, les paroles équivoques, c'est pas normal, ces blagues à deux balles là. C'est pas normal. Un chrétien, il raconte pas des blagues. Des blagues bêtes. Il ne fait pas des paroles équivoques. On en entend de plus en plus. Mes frères et sœurs, un chrétien, il a envie d'être utile à Dieu. Alors fermons les yeux quelques instants. Soyons soucieux vraiment de dire, Seigneur, j'ai ma part. Christ, je me relève. Christ, je me réveille. Je vais m'appliquer à ces choses. Je ne vais pas me contenter d'une étude, d'une réunion, d'un culte. Non, je vais en faire une affaire sérieuse. Et Christ nous éclairera. Seigneur Jésus, nous te prions de nous garder, veillant, priant. Toi qui as dit que celui qui écoute prenne garde à la manière dont il écoute, Seigneur, donne-nous de faire attention lorsque nous lisons, lorsque nous écoutons ta parole. Oui, lorsque tu as appelé Moïse, Josué, Ésaïe, Pierre et Saul de Tarse, tu leur as montré ta sainteté. Et nous croyons que l'Église est un lieu saint, un lieu où nous devons travailler pour le salut des âmes et l'édification de l'Église. Donne-nous, Seigneur, cette crainte. Augmente la crainte de ton nom dans notre cœur. Donne-nous le souci de réaliser que toutes ces choses ne peuvent être vécues que dans la spiritualité profonde, dans une véritable piété, dans une véritable profondeur. Seigneur, s'il te plaît, oui, nous voulons nous réveiller, nous voulons nous relever, nous voulons être éclairés par l'onction de Christ. Seigneur Jésus, ce soir, nous te prions pour que les chrétiens de Toulouse se réveillent et travaillent d'un même cœur et d'une même âme à cette vie de l'Esprit. Oui, nous le croyons que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, l'amour, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, réveille-nous, aide-nous à nous réveiller, à sortir de notre routine, de notre léthargie, de notre paresse. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, comme toi seul es capable de le faire, afin que Toulouse soit visitée, que nos familles soient visitées, que tous nos enfants soient sauvés, que toutes les gens que nous côtoierons soient au bénéfice de l'onction du Saint-Esprit. Tu vois tous les gens qui viennent dimanche après dimanche, mardi après mardi, qui ne sont pas encore sauvés. Seigneur, s'il te plaît, convainc-les de péché. Que rien n'empêche l'onction du Saint-Esprit de venir sur l'Église. Nous te le demandons, Seigneur, pour la gloire. Et l'honneur de ton nom manifeste ta présence. Merci Seigneur Jésus.